But who knows? Who knows? I may even decide to beat them for a third time, okay?
Ça, c'est Donald Trump à la grande messe de tous les conservateurs américains en fin de semaine, Raphaël, qui disait théâtralement, mais qui sait, je pourrais décider d'aller les battre une troisième fois, façon de dire qu'il a gagné sa deuxième présidentielle.
Une façon de dire qu'il a gagné en 2020, puis une façon d'ouvrir la porte, évidemment, à 2024. Je pense que c'est ça qui va retenir l'attention, qui a déjà retenu l'attention d'à peu près tout le monde. Le fait qu'il flirte déjà ouvertement avec une future campagne présidentielle, puis le fait qu'il a passé, écoute, c'est pas compliqué, là, à peu près la deuxième moitié de son discours, qui s'est étalé sur plus d'une heure, là, presque entièrement consacré donc à cette espèce de délire là, sur l'élection de 2020, comme quoi il avait véritablement gagné, etc. Bon. Personnellement, ce que je retiens de ce discours-là, c'est pas ce qu'il a dit dans la deuxième moitié, c'est pas ce qu'il a dit par rapport à 2024 pour ce qui est d'une possible candidature, c'est ce qu'il a dit au tout début de son allocution quand il est allé fermer catégoriquement la porte à un tiers parti. Toi et moi, on s'en est parlé un petit peu depuis son départ de la Maison-Blanche, là, l'espèce de rumeur qui circulait beaucoup comme quoi peut-être qu'il se lancerait comme candidat indépendant ou qu'il partirait un nouveau parti. Mais là, ça, il a adressé ça de front, il a dit « oubliez ça ». Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que après qu'il ait, disons, flirté avec une candidature en 2000, ça c'était donc à peu près 15 ans avant qu'il se lance pour la première fois formellement, en 2000, il avait flirté avec l'idée de se lancer comme candidat indépendant. Puis, il est arrivé à la conclusion, après coup, que la seule façon de gagner une élection nationale aux États-Unis, bien, c'est à la tête d'un des deux partis majeurs. Ce que, pour moi, ça suggère son discours d'hier, c'est que son objectif, c'est pas simplement de rester dans le paysage. S'il revient, évidemment, c'est pas confirmé, mais s'il revient comme candidat en 2024, ça va aussi être pour gagner. Autrement dit, à suivre.
Écoute, parlant de la suivre, mais avant de passer au prochain sujet, oui. Là, je veux t'entendre. Il y a Marie-Louise Arsenault qui anime l'émission dans les médias à Télé-Québec, là, qui se pose beaucoup de questions, évidemment, sur la couverture médiatique, mais j'ai aussi vu cette question-là aux États-Unis. Est-ce que c'est une nouvelle, Trump?
Est-ce que c'est une nouvelle aujourd'hui?
Mais pour vrai, quand il était président des États-Unis, moi... T'sais, les réseaux ont commencé à cesser de retransmettre en direct certaines conférences de presse ou événements quand ils se mettaient à mentir en disant « on va pas lui donner une plateforme pour mentir ». Parfait.
Ouais.
Mais puis c'est dur de pas couvrir le président des États-Unis. Là, il est pas président des États-Unis.
Je suis d'accord. C'est une excellente question.
Est-ce que c'est une nouvelle? Ça vaut-tu la page 1? Ça vaut-tu la 2? Ça vaut-tu la 3? Est-ce que ça devrait... être la première nouvelle des bulletins de nouvelles. T'sais, c'est une question intéressante.
C'est une question très intéressante. Je vais être franc, je m'appose moi-même. Écoute, j'ai pas la prétention d'être directeur de salle de nouvelles. Fait que je peux pas dire que ça mérite d'être en page 1, en page 2 ou que ça ne soit pas couvert du tout. En même temps, ce que je peux te dire, c'est ceci. C'est vrai qu'il n'a plus de fonction officielle. C'est pas juste qu'il est plus président. Contrairement, par exemple, au système parlementaire canadien où souvent la personne qui perd va quand même demeurer chef de l'opposition, va souvent avoir un poste élu. Dans le système américain, tu perds, t'es rien. Là. Si t'avais pas un autre poste à la base comme sénateur, gouverneur, peu importe, t'as plus rien. Donc, Donald Trump n'est rien d'autre qu'un citoyen privé en principe. En même temps, ce qui est également vrai, c'est que c'est pas n'importe quel citoyen privé parce que de un, il demeure, peut-être pas constitutionnellement, mais de facto, le leader d'un des deux partis majeurs aux États-Unis et surtout, puis le deuxième morceau, je pense qu'il est encore plus important, il demeure un candidat très possible, très potentiel, majeur pour la prochaine campagne présidentielle. Fait que c'est pas juste un ex-président comme Obama ou Bush ou Clinton ont pu en être. C'est un ex-président qui pourrait potentiellement être un futur président aussi. Fait que je sais pas à quel point il faut qu'on lui donne de l'oxygène, mais je ne peux pas te dire aujourd'hui catégoriquement qu'il faut arrêter d'en parler parce qu'il demeure à ce jour un joueur politique majeur qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Là.
OK. Parle-moi des voix aux États-Unis, là, Raphaël, qui s'élèvent pour un boycott des Jeux de Pékin en 2022.
Mais oui, je t'en parle parce qu'écoute, on se parle de 2024, on se parle de Trump. Je veux te parler d'une déclaration qui a fait couler beaucoup d'encre pendant la fin de semaine d'une probable, justement, candidate présidentielle, Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice de Trump aux Nations Unies, qui est allée déclarer que les États-Unis ont presque une obligation de boycotter les Jeux de Pékin qui sont prévus dans à peu près un an, à l'hiver prochain. Puis, je sais qu'il y en a déjà été question à l'émission là, d'une perspective canadienne. Là, le Parlement canadien s'est prononcé là-dessus dernièrement. D'une perspective américaine, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, quand on évoque les boycotts de Jeux olympiques, je pense qu'il y en a peut-être qui vont penser à par exemple, les Jeux de Moscou en 80, là, qui a fait l'objet de boycotts du côté américain. Mais je pense qu'en même temps, c'est surtout en 1936 qu'on pense à boycott américain, boycott en fait occidental de Jeux olympiques. Et 1936, tu le sais comme moi, c'était les Jeux de Berlin. Et aux États-Unis à l'époque, il y avait eu un débat assez intense, assez farouche pour savoir si on devrait les boycotter. Et c'est un effort qui avait échoué au final. Les États-Unis avaient participé. Puis à ce jour, Pat, si tu vas au musée de l'Holocauste à Washington, c'est écrit noir sur blanc. La participation de tous les pays en 36, incluant les États-Unis, peut-être surtout les États-Unis, aux Jeux de Berlin, ça a servi à légitimiser le régime d'Hitler aux yeux du monde et aux yeux des Allemands à l'époque. Mm-hmm, écoute, je vais être le premier à dire, il faut faire attention avec les comparaisons nazies. Puis il y en a plusieurs, je pense, qui vont dire, la Chine n'a quand même pas fait ce que l'Allemagne nazie a fait. Puis c'est vrai. C'est vrai avec la perspective d'aujourd'hui, parce qu'on sait ce qui s'est passé après 1936. Mais quand tu compares l'Allemagne au moment des Jeux de Berlin, à la Chine, au moment des Jeux de Pékin l'an prochain, ça change un peu la perspective. Puis quand tu regardes la liste, parce que c'est pas un ou deux éléments, là, tu regardes la liste de ce qui peut être reproché de façon extrêmement grave au régime, à la dictature chinoise présentement. Écoute, je te fais un éventail hyper rapide. La charge frontale contre la démocratie à Hong Kong, les menaces qui planent continuellement contre Taïwan, les prisonniers politiques, les kidnappings en fait politiques, incluant des deux Canadiens dont on parle depuis maintenant plus de 2 ans, qui n'ont absolument aucun droit, la question du génocide, selon à la fois le Parlement canadien et le gouvernement américain, qui est perpétré sur le territoire chinois, ça marque maintenant...
Contre
les Ouïghours. On est à 1 an de pandémie. J'ai-tu besoin de te rappeler d'où ça vient ce virus-là? Mais pas tant l'origine du virus, mais tous les mensonges qui ont été perpétrés par ce régime-là, qui en énorme partie ont contribué à la crise mondiale. Et je t'ajoute ceci qui est sorti aujourd'hui dans les pages du New York Times. La possibilité que la Chine soit délibérément impliqué dans des efforts de sabotage du réseau électrique de pays comme l'Inde. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, ça commence à faire lourd comme bilan. Il y a des sérieuses questions qui se posent. Puis, je te laisse avec ceci. Crois-moi que si ça commence à faire vraiment débat aux États-Unis à cause de l'influence des États-Unis dans le monde, c'est pas juste aux États-Unis qu'on va se poser des questions par rapport à la participation aux Olympiques de l'an prochain.
Très bien, merci Raph, à demain.
À demain.